Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leurs inspirations. Ce podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, c'est Laurent. Aujourd'hui, je suis content de recevoir Mathilde. Bonjour Mathilde.
Bonjour Laurent.
Ça va bien ?
Ça va très bien, merci.
Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous parler un peu de ton métier, de ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie professionnelle ?
Oui, alors moi c'est Mathilde Vermont, je suis designer UX UI et product designer. Quand on est free, c'est un peu compliqué de trouver la bonne place. pour ceux qui tomberaient par hasard dessus, l'expérience utilisateur, donc moi je vais travailler sur la relation que les gens peuvent avoir avec les produits qui les entourent, et donc les produits qu'ils vont utiliser. Bon. Et plus techniquement, je vais concevoir des interfaces aussi, autour d'applications métiers, de sites internet, voilà, pour être très large.
D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu es indépendante et tu as ta société, je suppose, c'est ça ?
C'est ça, oui. Oui. Je suis indépendante depuis 2007.
D'accord, très bien. À quel moment tu interviens dans les projets aujourd'hui ?
Alors, il y a vraiment deux typologies de clients. Il y a ceux qui m'appellent tout de suite. Donc vraiment, ils ont réfléchi à une idée. Et donc là, on va plutôt être dans une phase de test, de vérification. Et ça, c'est très chouette que les clients se rendent compte qu'il y a besoin d'un designer en initiation de projet. Et après, ça va être plutôt sur des projets déjà en place et on va dire sur des phases d'audit, où là, j'interviens pour vérifier ce qui a été mis en place et éventuellement faire des préconisations et des améliorations par la suite.
Ouais. D'accord, ok, très bien. Oui, donc c'est un peu comme moi également. Je pense qu'on est tous à peu près dans cette typologie-là, quand on est freelance. On arrive un peu à nous placer un peu à des moments clés ou à des moments plus en amont. Ça dépend, oui, tout à fait. Ok. Pourquoi es-tu devenu designer ou pourquoi as-tu choisi ce métier ?
Alors, pour te raconter un peu mon histoire, moi j'étais dès toute petite, c'était le dessin, mais vraiment plus design dans le sens, comment on va dire, de dessiner, du
D'accord.
graphisme.
D'accord.
J'ai fait les beaux-arts, donc ça m'intéressait vraiment depuis très très longtemps. Je pense qu'après, dans la famille, il devait y avoir un peu une petite histoire avec ça. Mon grand-père, même si c'était du technique, il était dessinateur industriel. Et mon père, quand il a été à la retraite, il a commencé à peindre aquarelles. Mon oncle vend des aquarelles, il est même coté, voilà. Donc je pense qu'il y a un petit truc de famille là-dedans. Et ça m'a semblé tout naturel pour le petit truc drôle. En fait, je voulais être vétérinaire.
D'accord.
Et j'étais bien trop nulle en maths. Donc, recalée. Et finalement, je me suis dit, qu'est-ce qui me reste ? Le dessin, on est plutôt pas mal. Tout ce qui était éco, mon prof d'éco voulait que j'aille en éco, j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Donc finalement, coup de chance, mes parents ont validé un passage aux Beaux-Arts, bien que mon père, ayant fait les arts et métiers, voyait ça un peu du genre « elle va rien faire » de sa vie. Mais finalement, il m'a quand même supporté là-dessus, donc pour ça que j'ai commencé par les Beaux-Arts.
D'accord, ok.
Après, je me suis rendu compte que les Beaux-Arts, c'était trop artistique, trop vaste, et j'avais besoin que ce que je produise en fait signifie et soit utile vraiment pour les gens avec qui je travaille. Voilà.
D'accord, ok, très bien. Et qu'est-ce que le design représente pour toi aujourd'hui ?
Le design, c'est le grand sujet qu'on a avec tous les amis designers, justement. C'est très très large pour moi dans ma façon de voir les choses. Donc quand j'ai créé mon entreprise, moi, j'étais, on va dire, web designer, graphiste. Après, j'ai géré les plus gros projets, donc on va dire plutôt DA, donc directrice artistique, où j'ai fait travailler du monde après avec moi. À ce moment-là, c'était vraiment, vraiment l'applicatif du graphisme, tu vois.
D'accord.
Et après, finalement, je me suis rendu compte il y a 4-5 ans que ce n'était pas que appliquer ce que le client voulait, et loin de là, enfin, ce n'était pas du tout ça. Et j'avais besoin d'avoir un regard plus global, d'arriver plus tôt dans le projet du client, de vérifier plus avec lui que ce qu'il avait en tête fonctionnait, travailler de manière vraiment plus globale du début jusqu'à la fin du projet et puis d'intervenir pour faire les maquettes, par exemple, ou juste le logo, mais d'avoir un regard plus large sur l'entreprise, sur le développement de l'entreprise, le business de l'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressée. Et c'est à partir de là, effectivement, il y a 4-5 ans, que j'ai changé toute ma façon de voir le design, que progressivement, j'ai proposé à mes clients une vision plus globale et ça leur convenait tout à fait. Donc, j'ai été dans ce sens-là. Voilà.
D'accord, ok. Donc, ça veut dire que des fois, t'avais plus un rôle de chef de projet ou des choses comme ça, non?
Ah oui, c'est ça, effectivement. Et ben, par rapport à ça, j'avais voulu un peu valider mes compétences, on va dire, au bout de 10 ans où j'ai été freelance. Donc, en 2018, j'ai passé une licence de chef de projet donc à distance pour pouvoir continuer à gérer mes clients et mes enfants.
D'accord.
Ce qui est pas mince affaire. Et voilà, j'avais envie de pouvoir superviser de manière plus globale, superviser aussi... les échanges, tu vois, avec les différents intervenants, que ce soit du développeur, que ce soit les personnes du marketing, la vente. Et ça m'a permis vraiment d'avoir une vision plus large et surtout d'aligner tout le monde sur une vision pour livrer quelque chose de cohérent.
D'accord.
Voilà. Et comme on parlait du design, je voulais juste reprendre cette définition qui me semble la plus juste, donc celle de l'Alliance française du design. Donc je vais te la lire parce que je la connais pas par cœur.
Bien sûr, vas-y, je t'en prie.
Que le design est un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Pour moi, elle est hyper claire. Je peux pas te faire mieux que ça.
D'accord, très bien. Mais c'est vrai que c'est effectivement oui. Je pense qu'on a du mal à faire plus clair et plus limpide. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant. C'est dans le cadre d'un de tes derniers projets. Et donc, c'est on va faire est-ce que tu vas nous présenter un retour d'expérience, donc un REX. Est-ce que tu peux nous introduire un petit peu sur le sujet, s'il te plaît, Mathilde?
Alors, c'était un projet, ça a commencé par un projet d'audit. Et ensuite qui a fini par une refonte d'application mobile. Donc pour te présenter le projet, c'est une application mobile dans l'événementiel, donc qui va permettre aux participants de salons, que ce soit des salons, comme on appelle ça, professionnels, de tourisme ou plus ou moins de loisirs, d'avoir des échanges un peu privilégiés avec les exposants.
D'accord.
Et de pouvoir plus de relations business, de faire mieux son business là-bas et de moins perdre son temps quand on arrive au salon, on va dire. Ça, c'est l'idée générale de l'application.
D'accord.
Le client, moi, je le connaissais depuis pas très très longtemps, mais j'étais persuadée que je pouvais les aider. C'est une boîte type SS2I.
D'accord.
Et très axé informatique, donc forcément, moi, l'informatique, ça me parle. Et quand il y a beaucoup de devs, j'aime bien ça, parce qu'on peut leur apporter tellement de choses. Et j'avais essayé pendant un petit moment de lui expliquer les avantages qu'il pouvait avoir à ce qu'on travaille ensemble, donc pour son entreprise de manière globale et aussi pour ses salariés surtout, et puis pour ses clients, hein, bien sûr, puisqu'on a vraiment cette capacité, tu vois, de superviser, et tu le sais, toute cette chaîne, tu vois, du début, quand on va délivrer, tout le monde est content, en fait. Tu vois, le client va être content, enfin, mon client. Le client de mon client va être content, les salariés vont être contents aussi, les devs, tout ça, parce qu'on va réussir à travailler en unité. Mmh. Et c'est pour ça qui me plaît. Donc pendant un petit moment, j'ai essayé de prêcher pour ma paroisse, ça ne marchait pas. Donc j'ai fait un truc qui était un petit peu un pari. Moi, en fin d'année, pour la petite histoire, j'ai travaillé 6 mois salarié en arrivant sur Nantes parce que je suis arrivée sans réseau et donc j'ai dû recréer tout mon réseau de zéro. j'ai dû tout recréer de zéro et c'était un peu compliqué avec le déménagement, les enfants, et j'ai un peu capitulé. J'ai trouvé un job assez rapidement et puis 6 mois plus tard, finalement, au lieu de gagner en réseau, finalement, j'ai un peu perdu dans le fait de développer ma boîte, donc j'ai dû recommencer, mais avec 6 mois de retard. Et c'est là que j'ai proposé, j'avais du temps, j'étais un peu perdue, je me dis, je vais lui proposer un audit gratuit.
D'accord.
Mais j'avais réfléchi, hein, j'avais mesuré le pour et le contre. C'était du temps que j'avais, du temps où je faisais rien, autant le rentabiliser et prendre le pari que si ça marche, au moins j'ai un client derrière, et si ça marche pas, et ben, au moins j'ai une expérience et une référence.
Voilà. D'accord,
donc pour moi, c'était vrai. Et il a accepté, forcément, il aurait été un peu bête de refuser. Donc j'ai commencé comme ça, et avec le deal, donc avec ce client, que si mes préconisations et mes propositions d'amélioration étaient acceptables et cohérente de travailler avec moi, en fait.
Et donc, c'était une grosse application mobile ou c'est quelque chose de... Je sais pas, il y avait combien de pages ou... Non, c'était pas juste une application mobile, hein, c'est ça. C'était aussi,
ouais,
c'était aussi un site internet, hein, c'est ça.
Alors, c'est plus gros que... Je sais pas comment on va dire. Il y a l'application mobile, mais derrière l'application mobile, il y avait tout un concept assez large que le client avait travaillé avec ses développeurs, ses gens de, enfin, ses commerciaux. Et finalement, bah, mon intervention, elle a permis de retravailler aussi sur le concept global de l'application.
D'accord.
Puis, au final, on s'est rendu compte, enfin, moi, je me suis rendu compte et je leur ai expliqué après que je ne comprenais pas le principe de l'application, ce qui était un peu gênant, et que j'arrivais pas à comprendre la valeur ajoutée de l'application. Et que donc, à ce niveau-là, ce serait quand même très difficile de vendre quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc ils ont tout à fait accepté la remarque, on en a discuté ensemble, et à partir de là on a retravaillé de manière plus globale. Ils ont réussi à retirer des fonctionnalités, ils ont retravaillé certaines fonctionnalités, tu vois, ils ont été quand même très très à l'écoute à ce niveau-là.
D'accord.
Ce qui est plutôt cool, et là même maintenant, une fois que le travail est fini, ils sont quand même contents. Et eux ont une vision qui est quand même beaucoup plus, je sais pas comment on va dire, plus juste de ce qu'ils avaient imaginé au début. Ils sont raccord en tout cas sur là où ils vont. Tous les développeurs sont bien clairs, parce que si tu veux, ils avaient travaillé il y a un petit moment dessus et ça traînait en longueur. Ça traînait. Mais c'était pas surprenant parce qu'en fait, ils ont voulu mettre tellement de super fonctionnalités que ça devenait une usine à gaz et que plus personne comprenait l'intérêt de base du service. Je sais pas si tu imagines un peu.
Si. Je pense que je suis déjà tombée sur ce genre de clients. Si, tout à fait.
Voilà. Et finalement, c'est ce que je leur ai dit. Vous avez mis, a priori, de ce que je comprends, vos fonctionnalités ont l'air super, mais je ne comprends pas comment elles marchent. donc finalement, même si ce n'était pas vraiment. Je ne sais pas comment dire. J'ai eu une question l'autre fois quand j'ai fait un webinaire sur les audits. Quelqu'un qui m'a demandé, et j'ai trouvé que c'était une bonne question, qui m'a dit à partir de quel moment ton intervention va remettre en question le business model de l'entreprise. Je pense qu'il était un petit peu surpris. Et je lui ai dit, bah, c'est vrai que c'est pas... Enfin, si, c'est aussi mon job, mais là, je n'étais pas payée pour ça. Mais c'est trop difficile pour moi de ne pas le mentionner au client, tu vois. J'aurais l'impression d'avoir fait mon métier qu'à moitié, en lui disant juste, bah, écoute, tu peux réparer ça derrière, tu peux changer 2-3 fonctionnalités. Et au final, si on ne comprend pas, ce n'est pas grave.
Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu as procédé, qu'est-ce que tu as fait concrètement dans cet audit, ou quelle a été ton intervention, ou comment, par quoi tu as débuté pour arriver à quelle finalité, s'il te plaît?
Oui, alors j'ai débuté en auditant. Donc l'application, c'était la mission de base pour laquelle on avait contractualisé. Par rapport à... Donc, c'était un audit... donc, quand je dis UX, mais c'est large. Donc, c'était aussi l'ergonomie Et j'ai listé, donc j'ai étudié plusieurs éléments. Donc il y avait le parcours des utilisateurs, l'architecture de l'information, l'ergonomie globale au sein de l'application, tout ce qui était graphisme et la rédaction, les CTA, voir si on était sur quelque chose qui matchait, les titres, enfin voilà, essayer d'avoir une globalité dans tout ce qu'ils proposaient. À partir de là, j'ai travaillé donc avec des captures d'écran sur lesquelles j'ai étudié les différentes parties que j'ai mentionnées juste avant. Donc j'ai rédigé un rapport dans lequel j'ai ajouté les screenshots avec des remarques, avec lequel j'ai mis des puces vertes pour tout ce qui était à conserver, des puces orange pour les améliorations.
D'accord.
J'ai pas mis le rouge, parce que on dit toujours le rouge c'est pas bien et je voulais pas. Et pour, il y avait vraiment beaucoup de points qui n'allaient pas et je me suis dit ils vont avoir que des trucs rouges, c'est pas cool. Donc c'est psychologique pour dire que c'est pour améliorer.
Bah oui, voilà. Tout à fait. Je pense que c'est vrai que des fois, il vaut mieux mettre des mots comme plutôt difficile plutôt que très difficile ou décevant ou un truc comme ça, quoi. Tout à fait.
Et justement, quand j'ai fait la restitution, donc je l'ai faite en visio, je m'y attendais pas trop, mais avec le Covid, on s'est retrouvé un peu bloqué.
D'accord.
J'ai fait la restit en visio et au début, je ne savais pas trop, tu vois, parce qu'il y avait quand même beaucoup de points qui n'allaient pas. Et à un moment, le président m'arrête et fait « Écoute, on sait que cet audit, il va être un peu cash. Mange pas tes mots, mâche pas tes mots, t'achète pas, vas-y. » Donc là, j'ai quand même mis, hein, tu vois, j'ai quand même été cool. Mais là, j'ai pu être un peu plus détendue et je leur ai dit franchement. Et à la fin, ils m'ont dit « Bon, ok, on s'y attendait. » Ça fait un petit peu mal, mais on sait qu'il y a des choses à changer. Donc finalement, ils ont été quand même très, très compréhensifs, tu vois. Mmh. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'ai aussi benchmarké les applis ou les services concurrents, bien évidemment.
D'accord.
Pour partager avec eux les bonnes pratiques que j'ai pu remarquer. Et ensuite, avoir des exemples. C'est toujours mieux quand on présente quelque chose de pouvoir montrer un exemple de ce qu'on a vu. On est quand même dans du visuel aussi. Donc j'ai pu faire remonter pas mal d'incohérences dans les fonctionnalités comme je te l'ai dit, des problèmes, clairement des problèmes d'UI, donc en termes de graphisme il y avait quand même beaucoup de choses qui c'était pas cohérent en fait, il y avait pas les mêmes titres, il y avait pas les mêmes couleurs, c'était un peu pour dire en fait ça a été monté uniquement par des développeurs. Donc, même le président de la boîte m'a dit on sait qu'on a fait une erreur. En fait, on a travaillé contre nous. C'était une des grosses erreurs qu'on a faites, c'est de ne pas avoir de vision extérieure.
Mmh. D'accord.
Donc, voilà, ça, c'était vraiment pour l'audit. Alors, ça m'a pris un peu de temps. Puis, finalement, donc, à la fin de l'audit, l'idée, c'est de leur proposer des axes d'amélioration, forcément. Donc je leur ai proposé plusieurs possibilités parce que ça peut, par rapport à mon audit, si tu veux, en gros, il fallait quasiment tout refaire. C'est un peu inquiétant, surtout quand tu investis depuis plusieurs mois des salariés, tu vois. Donc c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est des salaires. Donc c'était pas très cool d'arriver en disant « ouais, bon, ben, vous pouvez tout refaire ». Donc finalement, je leur ai proposé plusieurs solutions. Donc une solution de tout ce qu'ils pouvaient refaire, eux, avec leurs salariés. Donc sans mon intervention, en gros, la solution la moins cool pour moi. Celle qui ne me faisait rien gagner du tout. Mais l'idée, c'était quand même de proposer ce que je savais qu'il était possible de faire. Je n'allais pas me mentir. Ils pouvaient très bien faire des choses sans moi. Vu que j'avais mis des préconisations à chaque fois et des axes d'amélioration, ils pouvaient les retravailler tout seuls. Après, finalement, je leur ai proposé aussi de revoir le parcours utilisateur, c'est une catastrophe, mais vraiment, c'est là qui fait que j'ai rien compris. Donc j'aurais dit, le mieux, vraiment, ce qui serait le mieux, c'est de refaire le parcours, de retravailler ensemble, de redéfinir les fonctionnalités, d'en supprimer, s'il y en a qui servent vraiment à rien. Voilà, donc ça, c'était ma proposition préférée. Et l'autre proposition, c'était d'intervenir uniquement sur de l'UI. Et de remettre à niveau tout ce qui était graphisme et éventuellement leur proposer un design system pour qu'ils puissent gérer tout seul après.
D'accord.
Donc, voilà.
C'est très intéressant. Et du coup, alors, ils ont pris quelle solution alors ?
La meilleure. Donc, je suis intervenue chez eux avec leur chef de projet. Donc, Donc, je précise qu'il est une femme, forcément, tu sais, ça me tient à cœur. qui n'était pas une femme. Leur lead dev, donc j'ai travaillé avec les deux en totale vraiment confiance, si tu veux. Les deux présidents de l'entreprise n'étaient pas, nous ont pas supervisés. Ça, j'ai trouvé ça chouette aussi parce que j'avais vraiment, c'était tranquille. J'ai géré ça. Donc j'ai travaillé donc sur le parcours utilisateur. On a repris, on a redéfini les utilisateurs. On a fait on a regardé pour faire des tests aussi, pour tester ce qui a été mis en place et en gros vérifier ce que j'ai mis dans l'audit, vérifier que ce que j'ai dit dans l'audit se vérifiait auprès d'une personne qui n'avait pas utilisé l'application. Donc ça, on a fait ça aussi, on a fait un test filmé.
D'accord.
On s'est rendu compte effectivement que tous les points de blocage qu'on avait remontés sont les mêmes qui sont apparus chez le testeur. Ce qui est très bien. En faisant le parcours, on a ressorti les écrans principaux et effectivement des fonctionnalités à peaufiner ou à retravailler ou à repenser. Donc, on a sorti les écrans principaux qu'il allait falloir refaire parce qu'en gros, trop compliqué pour eux en termes de dev. En fait, ils ont pas, c'est, enfin, les personnes avec qui je travaillais n'avaient pas cette vision, si tu veux, globale sur ce que tu vas mettre dans l'écran et comment tu vas le mettre, tu vois, entre le contenant et le contenu.
D'accord.
Pour eux, ils vont penser fonctionnalité, on a besoin d'un bouton là, c'est tout, on a besoin de faire ça, on clique là, c'est tout. Et donc, l'idée, c'était s'il y avait, je crois qu'il y avait trois écrans qui étaient quand même très complexes de leur point de vue. Donc, finalement, on les a travaillés ensemble en atelier de co-conception.
D'accord.
Donc, je les ai fait travailler, on a travaillé chacun de notre côté. Après, on a mis en commun, tu vois, on a fait des systèmes de vote sur les zones qu'on voulait garder. Et ça a été très, très apprécié, justement, parce que déjà, c'est une activité, c'est quelque chose qu'ils ne font jamais. Et puis, ils ont beaucoup apprécié ça parce qu'ils se sont rendus compte que chacun pouvait apporter quelque chose. Moi, le lead dev m'a dit au début, moi, je ne sais pas dessiner. Je lui ai dit, t'inquiète pas, tu vas dessiner des carrés. C'était pas compliqué, c'était hyper simple. Et au final, alors après, c'est marrant parce que quand tu fais, là, je fais pas mal d'ateliers en visio, donc de co-conception, et tu te rends tout de suite compte de qui maquette quelle page. Quand j'ai fait des maquettes avec quelqu'un qui est plus dans la vente, clairement, il y a des CTA partout. Il y en a qui sont dans le dev, t'as juste des blocs avec un truc, faire ça, et après, chef de projet, c'est de manière plus globale. Alors, c'est rigolo parce que chacun a sa façon de faire ses écrans, et l'avantage, c'est que chacun a ses compétences, et en fonction des compétences de chacun, on va réussir à faire l'écran parfait, enfin, celui qui nous semble parfait, jusqu'à ce qu'il soit challengé, bien entendu, et vérifier qu'il soit effectivement bien, ou alors modifier s'il y a besoin. L'idée, c'est de se dire qu'on n'est pas fermé à ce qu'on fait, on propose une base. Et après, les utilisateurs ou les gens qui vont tester vont dire oui ou non, tu vois. Et tu le sais bien, on modifie derrière si nécessaire.
D'accord, très bien. Et cette mission, elle est toujours en cours aujourd'hui ou
Alors, ma partie sur cette mission, non, elle est finie. Je leur ai fait aussi un ou deux écrans en termes d'UI pour les aider parce qu'ils me faisaient un peu de peine, les développeurs. Donc, j'étais un peu... c'était un menu qui était compliqué. J'aurais designé un menu et puis une page de profil parce que c'était un peu... Je vois comme... Disons que quand il n'y a pas cette sensibilité, tu sais... Enfin, je ne sais pas comment on va dire... esthétique, enfin... Ouais. C'est qui permet de voir un tout de manière globale et de te dire, bah là on a besoin d'espace, là on a besoin que ça respire, là il faut un titre, là il faut un sous-titre, là on va changer de nuance de couleur, tu vois, un peu tout ça. Je vois clairement que c'est pas leur boulot, donc c'est pour ça que c'est pas du tout un reproche, c'est hyper normal de pas gérer ça, mais j'avais pas le cœur de me dire tout le travail qu'on a fait là pendant 2 jours va être sapé parce qu'ils vont pas réussir à mettre la bonne couleur, donc... Donc, je les ai aidés un peu là-dessus. J'ai vérifié l'implémentation. Il y a encore des trucs qui ne me plaisent pas. Mais moi, ma mission en soi, elle est terminée. Après, je m'entends très bien avec le client. On a retravaillé derrière pour faire... là, j'ai livré la semaine dernière le site de l'application mobile, donc qui présente l'application pour la vendre.
D'accord.
Donc, j'ai livré ça la semaine dernière. Donc, on est en très bon terme. Hein, et je sais que... De temps en temps, ils me demandent si je peux faire, tu vois, genre juste regarder dans l'app si je vois un truc et là, je fais, là, vous avez déjà fait mes motifs ou pas, tu vois, ou vous les ferez pas. Et finalement, et là, des fois, je fais un petit message au leader. Là, j'ai pas fait ça. On est d'accord, c'est pas très beau. Et du coup, il me fait, ouais, désolé, on va le faire, tu vois. Donc, j'aime bien quand même rester toujours disponible. Voilà, parce que ça m'importe, tu vois, quand j'ai travaillé sur une mission, ça m'importe que ce soit implémenté correctement. Et moi, si je suis pas satisfaite, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir bien fait, forcément, même si c'est pas de ma faute. Hein.
Ouais, puis je pense que quand on est freelance, c'est aussi une manière de rester en contact, c'est aussi une manière de conserver son client durant plusieurs mois, durant plusieurs années. Et voilà, c'est aussi une façon. Freelance, c'est aussi ça, quoi. C'est être plus proche, par exemple, qu'une agence ou qu'une société, une ESN ou une SS2I. Je pense que c'est aussi ça le métier de freelance, d'être plus proche, quoi, en fait. Ta mission a duré combien de temps, en fait, depuis le moment où tu auras fait cet audit et jusqu'à la livraison du projet ou des recommandations que tu as faites?
Alors, si c'est en termes de temps effectif, ça va être, je sais pas, 7 jours. 7.
Ah, ouais, 7.
Après, si c'est sur la longueur, tu vois, c'était quand même un peu plus long parce que j'avais d'autres clients. Ça s'est passé en un mois et demi.
D'accord. Et qu'est-ce que tu en retires, en fait, de cette expérience aujourd'hui par rapport à d'autres clients ou par rapport à tes expériences précédentes?
Que j'avais raison. je savais que j'allais pouvoir leur être utile parce que, bah, comme dit, bah, maintenant tu sais, j'ai la deuxième mission avec eux qui s'est terminée la semaine dernière et pour laquelle le client m'a fait un petit mail disant qu'il était très content et qu'il me recontacterait pour une V2. Donc, ça c'est très chouette.
D'accord.
Donc, voilà. Voilà, je suis contente de. En général, tu vois, quand j'arrive à prendre le temps de discuter avec des personnes qui sont peut-être un peu sceptiques sur l'intervention. D'un designer, en général, ils sont. Si je leur parle d'un retour d'expérience, ça permet de les rassurer, vraiment. Je pense qu'ils ont besoin de se rendre compte concrètement de ce qu'on met en place au sein des entreprises. Après, ce qui est hyper important, c'est comme dit dans tout ce qui est UX aussi, ben, même si tu leur parles de l'expérience utilisateur, de l'empathie, ben, ça ne remporte pas toujours un franc succès dès le début. Parce que l'empathie, si tu veux, eux, ils vont voir, ils vont dire « Ah, bah, l'empathie ne fait pas vendre », alors qu'en soi, bah si, puisqu'on va travailler avec empathie et bah, ce qu'on va faire, on va faire vendre. Donc, il faut beaucoup leur parler de retour sur investissement. C'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai pu repeaufiner un peu mon positionnement avec un très, très bon collègue que j'ai rencontré quand j'étais salariée, qui est coach agile, mais qui a un regard... génial en termes de business et il m'a dit parle plus business et franchement il a raison si je parle que à mon client en disant oui mais tu comprends, faut comprendre tes utilisateurs, tes clients, tout ça, si je parle que comme ça, ça va pas le faire. Mais par contre, si tu lui dis de le fait de produire quelque chose qui correspond aux attentes de tes utilisateurs, bah forcément le faire, qu'ils vont avoir envie d'utiliser ton produit. Et qui dit utiliser ton produit, dit vendre ton service. Et là, ils font « Ah oui, c'est vrai
ouais. !» Ouais, et puis je pense qu'effectivement, dans beaucoup de sociétés, le design, c'est abstrait, c'est quelque chose de... Ça reste encore la couche graphique, on va dire. Quand tu commences à leur parler UX, utilisateur, expérience... Ça devient vraiment très compliqué. Je pense qu'on a perdu la moitié des gens en face, quoi. Donc, effectivement. Et quelles erreurs as-tu faites durant ce projet, par exemple?
Alors, sur ce projet, ma plus grosse erreur, c'est d'avoir sous-estimé la partie audit. Donc, c'est dommage, hein, commencer sur une erreur. J'avais dû y passer 2-3 jours. J'y ai passé... la semaine complète. Au final, si tu veux, quand j'avais regardé l'application avec le client, j'avais pas trop vu qu'il y avait une partie, comment on appelle ça, client, hyper complexe. Et moi, j'avais accès qu'à la version sans compte. Enfin, moi, j'avais pas créé de compte ni rien, tu vois.
D'accord.
Donc, j'avais comme ça. Et puis finalement, comme j'ai voulu, j'aurais pu, tu vois, auditer beaucoup moins de choses. Mais une fois que j'étais partie dans l'appli, je ne me voyais pas ne pas auditer tel truc, ne pas regarder la partie connexion, ne pas regarder la partie des fonctionnalités, des services. Tu vois, j'étais lancée, je ne voulais plus m'arrêter. Du coup, ça, c'était un peu une erreur quand même.
Ça c'était donc l'audit, tu l'avais fait gratuitement, c'est ça, hein, tu disais au début?
Ouais.
D'accord. Oui. Effectivement, ouais, une semaine, ça, j'espère que tu as été bien
rémunérée. Mal. Je faisais un screenshot pour l'audit et je faisais c'était pas cool. À la fin, j'en pouvais plus du truc. Je me suis dit, ah là là, après, j'étais quand même contente du résultat, de ce que j'ai produit. Ça m'a permis aussi d'avoir une trame que je peux réutiliser pour mes audits suivants et que je réutilise. Ça m'a permis d'avoir une super référence que je suis en train de mettre en place dans mon site. Mais comme je fais travailler mon développeur, on a travaillé encore dessus hier soir, ça va bientôt sortir. Franchement, je ne regrette vraiment pas du tout. Si tu veux, je préfère, même si c'est gratuit et c'est très compliqué parce que le gratuit dans le design, c'est quelque chose qui est très problématique. C'est un choix que j'ai fait seule. Le client ne m'a pas du tout demandé de travailler gratuitement, tu vois. Donc, c'est un choix que j'ai fait seule, pour lequel j'ai mesuré la perte acceptable. Et pour moi, du coup, il n'y avait pas de problème.
D'accord. Après, oui, effectivement, c'est juste une histoire de conception et d'être bien à l'aise dans, j'ai envie de dire, dans sa tête et dans son corps. Et par rapport au client, absolument, tout à fait. Le pendant de cette question, Mathilde, c'est quelle réussite es-tu fière?
Ok, je vais te donner deux axes. Un axe plus pro, dans le sens où j'ai beaucoup de retours positifs des gens donc, du métier, donc qui sont UX, UI, DA, graphiste, dev, concernant toutes mes publications, mes articles, mes références donc, par rapport à ma vision du design et de l'entrepreneuriat, surtout parce que ça, j'y tiens beaucoup. Puisque bah, mon métier, je suis autant designer qu'entrepreneur. Vraiment, je mets autant d'énergie dans les deux, ça me prend de plein temps.
D'accord.
Voilà. Et l'autre partie, c'est plutôt point personnel, c'est parce que donc, j'ai créé mon activité en 2007, donc en entreprise individuelle, et je suis passée en SAS en 2018. Et avec deux enfants, donc là, qui ont actuellement 4 ans et demi et 10 ans et demi, ce qui veut dire que en même temps que j'ai développé ma boîte, j'ai développé mes enfants. Et là, donc là, maintenant, il y a 2 ans, on a changé de région sur un coup de tête, sans famille, sans réseau pro, sans rien, parce qu'on avait envie de se rapprocher de la mer. Donc maintenant, on est entre Nantes et Pornic, donc on est très bien placé.
D'accord.
Et finalement, si tu veux, je me suis rendu compte que là, à partir, donc Covid exclu, hein, parce que je n'avais pas prévu que ça arrive comme ça, mais à partir de septembre, là, 2020, ce sera la première fois en 13 ans que j'aurai 95% de mon temps dédié à ma boîte. Si tu veux, pour moi, c'est énorme. Je dis 95% parce que le mercredi après-midi, je garderai les enfants.
D'accord, ok.
Tu vois, c'est énorme de me dire que là, en gros, tout ce que j'ai jusque maintenant, en 13 ans, je l'ai fait sur... je sais pas, 3 voire 4 jours par semaine grand max, et pas lycée, parce que quand ils étaient petits, mes enfants, je les gardais 3 à 4 jours par semaine, donc ça me laissait rien du tout pour bosser.
Bien sûr.
Et avec sens dedans et tout ça, quoi. Donc je suis super motivée.
Bien. On le sent quand tu le présentes comme ça, on le sent très bien.
Mais en plus, ils ont bien élevé mes enfants. Avec moi, avec les autres.
Ça se passe toujours comme ça, je te rassure. Pour terminer l'interview, je voudrais te poser 3 questions. Dans quelle société aimerais-tu travailler et pourquoi, s'il te plaît? Alors, ce n'est pas forcément une société, je le dis à chaque fois, c'est peut-être un type de société ou une façon de travailler. Voilà,
De prime abord, comme ça, je te dirais forcément dans aucune, parce que moi, j'ai vraiment envie de travailler dans la mienne et éventuellement même en étant plusieurs profils, de développer... ma boîte avec plusieurs profils complémentaires.
D'accord.
Ce serait quelque chose qui me plairait vraiment, donc d'accompagner les entreprises avec des profils de consultants, designers, agiles, créatifs, des développeurs, voilà, des personnes qui peuvent vraiment tout superviser. Après, si je devais choisir un type d'entreprise, moi j'aimais bien toutes ces entreprises qui bossent dans le sport, je sais pas, c'est un truc qui me plaît vraiment. Les créas qui bossent par exemple chez Salomon, qui font des skis, je sais pas pourquoi, en fait c'est parce que j'adore skier, mais, ou alors ceux qui font du surf, tu vois, c'est un truc, ça m'aurait toujours vraiment vraiment intéressé. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de culture là-bas qui est totalement différente. Après, c'est peut-être une idée reçue, je ne sais pas trop.
D'accord, donc plus te rapprocher. En fait, ce n'est pas à Nantes que tu aurais dû aller, c'est plus vers Grenoble ou.
On a hésité aussi. Hein.
Aller travailler chez Salomon ou je ne sais plus comment ils s'appellent les autres.
J'étais pas loin avant, j'étais dans le Jura quand même. Donc, Jura. Mais non, finalement, on a tranché, la mer, c'est quand même. Il y a plus souvent la mer que de neige, tu vois.
Oui, voilà. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce qui te différencie, toi, d'un autre designer?
C'est compliqué, cette question. Donc, je ne sais pas trop ce qui me différencie. Et puis, je trouve que c'est pas top de se comparer aux autres. Je pense qu'on a tous vraiment, surtout en tant qu'indépendant, notre façon de faire et notre bagage, tu vois. Mais ce que je peux te dire, c'est comment mes clients me voient, et c'est eux, ils sont les mieux placés pour te le dire, donc ils vont dire que je suis pertinente, que je suis vive, réactive, à l'écoute, créative, conciliante, qu'on a envie de me suivre quand je lance les projets, et drôle des fois. Voilà. Donc tu vois, c'est plutôt ces retours que moi j'ai. Et je me base là-dessus pour dire ouais, ma différence. Après, je rajouterai ouais, aussi le côté créa, parce que ça me plaît beaucoup de garder cet esprit d'inventer ou de créer, tu vois.
Très bien. Et la dernière question du fil rouge, c'est comment vois-tu ton métier dans une dizaine d'années?
Alors clairement, et on est sur la bonne voie, je le vois comme un métier indispensable. Tu vois, on a toujours besoin de concilier l'humain et les produits, la créativité et l'intelligence pour comprendre les humains. Et on a besoin de gens imaginatifs qui vont sortir des cases pour apporter des nouvelles réponses aux challenges. Alors bah, après, environnementaux, culturels, il y a beaucoup de choses et c'est clairement indispensable. Et je le vois de plus en plus dans les publications et dans les grandes entreprises qui font confiance aux designers. C'est clairement, c'est sur la bonne voie.
Pour conclure, je voudrais en fait te laisser le dernier mot, Mathilde.
Oui, alors moi, si je peux donner un conseil donc à tes auditeurs, qui vont forcément, à mon avis, plutôt être dans le design, et éventuellement pour les entrepreneurs, ça me tient à cœur, comme je te disais, que j'avais vraiment pour moi deux métiers, le fait d'être UX, mais le fait d'être aussi entrepreneur, c'est de ne pas se sous-estimer, de toujours rester hyper curieux, de bien s'entourer de gens inspirants, voilà, de rester motivé et focus sur son envie vraiment de rester indépendant. et j'ai toujours, voilà, j'ai pas mal de personnes qui me contactent sur LinkedIn pour me demander quelle était ma formation, me demander des astuces, des conseils, et c'est pour ça. J'ai pas trop le temps, mais je resterai toujours, toujours dispo. Tu vois, si quelqu'un a envie qu'on s'appelle, si quelqu'un a un peu un coup de mou, parce que ça arrive quand on est indépendant, même si indépendant, ça veut pas du tout dire travailler seul. Alors, il y a beaucoup cette idée reçue. Moi, je ne travaille jamais seul. Je travaille seul à mon bureau, soit. Mais par contre, je ne travaille jamais seul. Et par contre, le fait d'être seul à son bureau ou d'être seul avec ses challenges d'entreprise, bah en fait, on peut se sentir un peu démotivé, et moi j'ai envie de dire, je suis toujours hyper motivée, enfin, des fois pas tout le temps, mais je le dis pas, et donc je suis toujours hyper motivée, et les gens, si vous êtes plus motivés, vous m'appelez, moi je vous remotive, parce que mes copines me le diraient, mais toi, tu t'arrêtes jamais, t'es toujours motivée, alors non, hein, des fois ça va pas, hein, je suis humaine, je suis comme tout le monde, mais en 13 ans, j'ai beaucoup bossé, j'ai failli fermer ma boîte parce que j'avais plus d'énergie, parce que j'étais fatiguée, parce qu'il n'y avait plus de boulot. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vraiment envie dans ma vie? En fait, c'est ça, c'est d'avoir ma boîte. Donc, je reste focus là-dessus, avec ce que tu peux effectivement, comme dit, accepter en perte, ce que tu peux perdre, à un moment compliqué financièrement. Ça arrive aussi, c'est pas, on va pas se le cacher, l'incertitude, tout ce qui va, mais vraiment rester focus, et moi je peux donner un peu de motivation à qui veut.
Donc Mathilde, coach motivation.
En entrepreneuriat, carrément. Surtout, et si, franchement, tu vas encore dire, tout à l'heure avec les femmes, les femmes, n'hésitez pas, il y a aussi beaucoup de... d'idées reçues sur le fait que et puis on est beaucoup, enfin c'est compliqué parce qu'on doit gérer beaucoup de choses. On gère quand il y a des enfants, il faut gérer les enfants, faut gérer l'entreprise et c'est compliqué. On a l'impression de pas toujours être légitime. Et donc moi je dis si carrément. Et en plus dans le design on sait que les femmes ont une super bonne place donc faut la prendre. Voilà.
D'accord, très bien. Et puis non mais t'as entièrement raison. Moi c'est vrai que il y a pas mal d'hommes qui me contactent, mais il y a surtout aussi beaucoup de femmes aussi qui me contactent. Et je suis très content de pouvoir échanger avec elles et avec eux. C'est vraiment c'est beaucoup de plaisir. En tout cas, merci beaucoup Mathilde pour cette interview. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose?
Écoute, non. Merci de m'avoir proposé de faire ce podcast avec toi. Je l'avais encore jamais fait. C'est très cool. Et puis, juste de dire que c'est chouette aussi de se rencontrer sur les réseaux parce qu'on ne se connaît pas. Et ça, c'est très, très important. On a l'impression de se connaître finalement parce qu'on échange sur les réseaux, parce que je suis ta newsletter. On échange sous nos posts. Et ça, je trouve ça vraiment bien. C'est aussi la puissance... Des réseaux, et là, via le Covid, justement, le fait de travailler à distance, ça m'a permis, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, de lier énormément de relations, pas forcément pro, hein, c'est vraiment, je dis pas pro, ça veut dire avec des clients forcément, ça va être avec des gens qui ont la même vision que moi, tu vois, des autres designers, des autres développeurs, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment nickel, parce que j'ai l'impression de te connaître, tu vois. Comme si on s'était déjà vu.
Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode. Et encore merci Mathilde pour l'interview.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à deux personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design Plus PLUS _ podcast et sur LinkedIn, Design Plus le podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www.laurentgalenattaché.com. À bientôt.